Deutsche Welle. Droits et libertés.
Les affaires sont les affaires. Décidément, l'adage se vérifie souvent et notamment dans le milieu des entreprises extractives ou de celles qui utilisent et transforment les ressources naturelles en provenance de zones de conflit. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on en parle puisque c'est notre sujet de la semaine. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Pendant 4 ans, l'entreprise minière britannique Rainbow Rare Earth Limited a exploré une surface d'exploitation de 130 km² à Gakara, c'est au Burundi. La localité se trouve dans la province de Bujumbura, à une quarantaine de kilomètres environ de la capitale. La zone regorge de minerais. La société a obtenu en juin 2014 le renouvellement de son permis de recherche sur les terres rares qui y abondent, de la bastnésite et de la monazite par dizaines de milliers de tonnes. À noter, ce qui pourrait faire sourire ces derniers jours si les circonstances n'étaient pas si graves, sur le site internet de la multinationale, le Burundi était encore présenté au lendemain du putsch manqué des mutins comme, je cite, « un petit pays stable d'Afrique qui cherche à attirer les investissements étrangers ». Les terres rares sont devenues des éléments incontournables de la technologie moderne. Elles entrent ainsi dans la composition des téléphones portables ou des écrans plats, par exemple. Mais ces minerais peuvent aussi être utilisés pour la construction d'éoliennes ou d'installations solaires. Autant de débouchés qui intéressent hautement une grande entreprise allemande, ThyssenKrupp. L'un des dirigeants de la branche métallurgique du groupe allemand, Kai Norman Knutsch, a ainsi déclaré, je cite, « se réjouir de la coopération avec Rainbow Rare Earth ». Mais voilà, la situation politique et sociale au Burundi que vous connaissez est extrêmement préoccupante. Des centaines de milliers de ressortissants burundais ont fui les violences de ces derniers jours dans le pays. Alors, est-ce vraiment un climat propice pour signer des contrats de partenariat avec le régime Nkurunziza? Gesine Ames du réseau œcuménique pour l'Afrique centrale en doute.
À mon avis, ThyssenKrupp, comme la communauté internationale d'ailleurs, devrait entamer des discussions plus critiques avec le président et son gouvernement et soumettre ce genre d'accords commerciaux à des conditions strictes de respect des droits de l'homme et droits civiques.
Alors, est-ce que ces conditions sont stipulées dans le contrat passé entre la branche produits métallurgiques de ThyssenKrupp et Rainbow Rare Earth? Est-il prévu que l'entreprise allemande résilie le contrat en cas de violation des droits de l'homme? Les clauses du contrat sont confidentielles. Nous vous remercions de bien vouloir comprendre que nous ne pouvons nous exprimer sur le sujet. Voici la réponse obtenue par mail par la Deutsche Welle à ces questions, adressée à Stefan Etwig, porte-parole du groupe ThyssenKrupp. Avec l'assurance tout de même que les relations avec le britannique Rainbow respectent un code de déontologie aux critères sévères. Un code dans lequel le respect des droits de l'homme serait en effet l'un des critères pris en compte. Et puis ThyssenKrupp n'a pas directement à faire avec le pouvoir burundais, mais bien avec Rainbow Rare Earth, et le porte-parole du groupe allemand de se défausser sur son partenaire britannique, chargé d'évaluer, lui, la situation sur place. Rainbow a refusé de répondre aux questions portant sur les questions politiques et les inquiétudes des ONG. Voici les termes de la réponse donnée une fois de plus par mail par Martin Eels. Il est administrateur de Rainbow et s'est exprimé ainsi envers la Deutsche Welle. Je cite « Nous ne nous mêlons pas de la politique du Burundi » ou encore « Nous ne prenons pas parti, nous espérons un règlement prochain de la crise, mais laissons agir les personnes impliquées dans ce processus ». Fin de citation. Pour Christophe Kangisa, qui dirige l'Africa Verein, une association qui encourage les échanges commerciaux entre les entreprises allemandes et le continent africain, seules des sanctions internationales officielles pourraient mener des multinationales comme ThyssenKrupp ou Rainbow à renoncer à faire du commerce avec des pays comme le Burundi. Or, ces sanctions ne sont à l'heure actuelle pas même en discussion.
Pour le Burundi, c'est sans doute mieux que ce soit ce genre d'entreprise qui exploite ces ressources naturelles, des entreprises qui respectent les standards occidentaux plutôt que n'importe qui d'autre.
Vous aurez sans doute compris l'allusion à peine voilée à la concurrence chinoise, très présente en effet dans les industries extractives de la sous-région. Mais Gesine Ames du réseau œcuménique pour l'Afrique centrale trouve l'argument un tantinet fallacieux.
Je pense que dans le cas du Burundi, ce serait un signal fort de dire « nous ne signerons le contrat que sous certaines conditions ». C'est comme ça qu'on peut faire pression sur le gouvernement burundais, j'en suis sûre. Il existe des principes très clairs, même s'ils sont basés sur le volontariat, en matière d'exploitation de ressources. Ces principes concernent l'ensemble de la chaîne de production, y compris ceux qui ne sont pas directement impliqués dans l'extraction, mais qui ont des droits d'exclusivité sur ces produits.
Il n'empêche que les entreprises étrangères sont effectivement bienvenues au Burundi. C'est ce que rappelle Deogracias Maruhukiro, ce prêtre burundais à Fribourg, en Allemagne. Vous l'avez déjà entendu sur notre antenne. Il s'implique dans la défense des droits de l'homme dans son pays d'origine. Et selon lui, ce ne sont pas les industries qui posent problème, mais bien la répartition des bénéfices qu'elles génèrent.
On sait souvent que les entreprises étrangères qui font des contrats d'exploitation minière, dans des régions en conflit, ils profitent beaucoup et la population ne profite de rien. Et je voudrais que cela ne se répète plus.
Pour tenter de réguler le secteur des minerais et des industries extractives, l'Europe est en train de se doter d'une nouvelle réglementation. L'objectif est de certifier l'origine des métaux travaillés et transformés en Europe, mais aussi de ceux que contiennent les produits importés dans l'Union européenne. Il s'agit d'endiguer le flux de revenus des groupes armés dans les régions d'extraction. Le texte vise particulièrement la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs et entreprises travaillant ou transformant l'étain, le tantal ou le tungstène, quand leurs minerais et l'or qu'ils achètent ou utilisent proviennent de zones de conflit ou à haut risque. Pour Michael Gibb, ces mesures ne vont pas assez loin. Il travaille pour l'ONG américaine Global Witness qui lutte justement contre l'exploitation des ressources extractives dans les conflits.
Nous voulons que les eurodéputés définissent des règles plus strictes pour les ressources naturelles issues des zones de conflit. Des règles qui garantissent la transparence dans le commerce et la gestion durable des ressources par toutes les entreprises européennes. Et il ne faut pas se cantonner aux entreprises qui importent des minerais et des métaux directement en provenance des régions de crise, mais qu'on étende la réglementation à toutes les entreprises qui importent en Europe des produits finis contenant ces minerais.
Des minerais contenus dans les téléphones portables et les ordinateurs notamment, donc, dont l'Europe est le deuxième importateur mondial selon Global Witness. Mais pas question pour l'instant pour les eurodéputés de rendre la certification de tous les opérateurs obligatoire en aval. Le texte actuel est destiné à créer une sorte de label d'importateurs responsables autodéclarés qui s'engagent à vérifier eux-mêmes l'origine des minerais et métaux. En 2010, les États-Unis se sont déjà dotés d'un système de certification un peu similaire qui demande à toutes les entreprises cotées en bourse aux États-Unis donc et qui utilisent des minerais en provenance de République démocratique du Congo ou des pays voisins de les déclarer et d'en garantir la traçabilité. Cela concerne aussi les entreprises en informatique d'ailleurs et ce texte c'est le Dodd-Frank Act qui demande aux entreprises américaines d'établir que leurs minerais ne sont pas des minerais de conflit. Matthias Warta qui dirige le département en sécurité et matières premières au sein du BDI, l'Union fédérale de l'industrie allemande, est plutôt sceptique vis-à-vis de ce modèle américain.
Les expériences faites par le Dodd-Frank Act, qui concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de production, ces expériences montrent que pour beaucoup d'entreprises, cette certification de l'origine des matières premières est tout simplement impossible, parce que la chaîne est tellement longue et tellement complexe, étendue sur tant de pays, que ces dispositions qui partaient pourtant d'un bon sentiment n'atteignent pas du tout leur objectif.
letztlich sein Ziel verfehlt.
Sans oublier que le lobby des industries liées aux matières premières comme les minerais et les métaux sont extrêmement puissants. Organiser un boycott de certaines zones d'extraction pourrait d'ailleurs contribuer à les déstabiliser encore davantage, au détriment des entreprises peut-être, mais à celui surtout des populations locales, sans aucun doute. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Hilke Fischer pour les sons. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.de/français. Pour nous écrire, une seule et même adresse, français@dw.de, sans la cédille à français comme d'habitude. Merci, salut et à la semaine prochaine.